CFAQ.ca.
Le balado que vous écoutez est une exclusivité de CFAQ.
CFAQ 88.3, l'essence de la radio.
Un jour, je vais faire un film. Il sera très très bon. Il y aura quelques scènes tournées dans mon salon sans prétention.
Tabarouette, l'hiver est arrivé de bonne heure cette année.
Ben, moi, je crois pas ça au réchauffement climatique, là.
Ben non,
c'est une gang d'illuminés qui sortent dehors, sacrément.
Ben oui.
Terrible.
Heureusement, t'as gardé tes pneus d'hiver toute l'année, hein. Fait que ça a payé au final.
Mais tu sais, quand il neige, hein, qu'est-ce qu'on peut faire? Écoute un bon film, hein.
Ben, c'est ça. Puis on en a écouté pas mal. Moi-même, ouais. D'ailleurs, hier, j'en ai écouté un très bon avec ma douce compagne. On a écouté Doctor Strangelove,
oui,
que j'avais pas vu.
Oui, Stanley Kubrick.
Oui, qu'on a acheté sur une flash sale de Criterion. Donc,
Peter Sellers, je pense qu'il joue 15 rôles dans le film.
Ah, il en joue 3, en fait. Mais non, c'est un très bon film, ouais. Une très belle comédie noire. Bon timing aussi avec la crise des missiles cubains tout. Là, donc, c'était excellent. Sinon, ensemble, on est allé voir Jojo Rabbit aussi.
Très bon film.
De Taika Waititi.
Ouais.
Un très bon film. Bon, je m'attendais peut-être à un peu plus à cause qu'il avait gagné le prix du public à Toronto et tout, mais non, il était sympathique et ça commençait fort. Bon, après ça, ça a ralenti un petit peu, mais c'est un très bon divertissement.
J'avais une question après le film, là, moi, qui me chicote encore. C'est-tu son vrai nom, ça, Taika Waititi?
Ben, probablement. Ça, il doit être semi-maori, j'imagine. C'est
ouais.
Ça, là, ou kiwi, je sais pas trop. En tout cas, en Nouvelle-Zélande, c'est un réalisateur néo-zélandais, évidemment, qu'on ouais. a connu pour What We Do in the Shadows, Hunt for the Wild
Flight
People.
Of the Concorde.
Ouais, c'est ouais. ça, la série sur HBO aussi. Puis évidemment, Thor 3, là, ça paraît qu'il a fait de l'argent puis qu'il est, c'est ça, il s'est gâté dans
Jojo Rabbit. Il a fait comme Gaffalardo, c'est ça?
Ouais, non. C'est ça. Mais non, c'est ça, très bon film. Mais sinon, on en a écouté deux pour cette émission, évidemment. Mais avant ça, on est allé voir... Ah non, toi, t'étais pas venu finalement, mais je suis allé voir Parasite il y a pas si longtemps, puis j'ai rédigé ma critique, et finalement.
Ouais.
Très, très bon film que j'avais déjà vu à Cannes, évidemment. Mais non, je vous invite à aller le voir. Il vient de sortir à Maison du cinéma. Courez le voir, pour vrai, c'est un film...
Mais vraiment, j'ai vu la bande-annonce et ça promet, tabarouette. Pour vrai, ça a vraiment l'air
solide. Ben, c'est que t'as juste aucune idée de ce qui va se passer dans le film. Là. C'est vraiment, ça te prend par surprise après une heure ou je sais pas trop quoi. Là. Puis, ah non, c'est magnifique comme film, vraiment. Allez le voir. Mais bon, on a une émission à parler aujourd'hui. Puis, cette année, en fait, c'est le 25e anniversaire commémoration,
ouais.
disons, génocide des Tutsis au Rwanda. Donc, ça va être le sujet de notre émission, un sujet un peu lourd peut-être cette semaine, mais bon, que voulez-vous, c'est l'histoire, on n'a pas le choix d'en parler. Mais avant, évidemment, d'entrer dans le cœur du sujet, on a un petit éphéméride, très petit d'ailleurs. En 1910, probablement la première cascade tournée au cinéma. C'était un homme qui saute d'une montgolfière dans la rivière Hudson, à côté de New York, évidemment.
Est-ce qu'il est mort?
L'histoire ne le dit pas, puis j'ai même pas réussi à trouver le film, en fait. Fait que c'est peut-être pas une info crédible, mais bon, on sait pas. Peut-être que le film est jamais sorti. Sinon, on parlait de cascade aussi. En 2016, ça fait pas très longtemps, Jackie Chan recevait un Oscar honorifique de l'Académie pour service rendu. Je sais pas. Là, pour les comédies d'action.
Est-ce qu'il y avait déjà eu un Oscar auparavant? Ou...
Non. Je pense pas qu'il avait été nominé non plus.
Non, je pense que ça va être son seul. Hein.
Ouais, ben c'est ça. Ben, tu sais, il y a plein de gens qui ont juste eu des Oscars honorifiques. David Lynch, d'ailleurs, qui en a un année, je crois. Agnès Varda, il y a deux, trois ans. Mais bon, donc, on sait jamais. Puis, pour faire un lien avec notre émission il y a quelques semaines, Léon Trotsky est expulsé aujourd'hui du Parti soviétique en 1927, ce qui consolide le pouvoir de Staline à l'URSS. Donc, on fait des liens, on devient... autoréférentiel tranquillement, mais bon, quand on parle d'histoire, c'est assez facile à faire.
Quand t'es en Russie, puis on va sur Google, mettons qu'on tape Léon Trotsky, ça doit pas apparaître, hein? Je pense pas. Hein?
Ça doit sortir Léo Tolstoï à la place, ou sinon ça sort la Pravda, mais au Québec.
Ah,
sinon,
ben oui.
On sait pas. Donc, c'est ça, aujourd'hui, on parle d'un sujet sérieux, le génocide rwandais, ou plutôt le génocide des Tutsis au Rwanda. Je crois que c'est une meilleure appellation que génocide rwandais, parce qu'au final, il y a pas mal juste un des deux groupes au Rwanda qui a été touché par ça. Donc, c'est une guerre civile qui fait, pour ceux qui ne le savent pas, là, c'est une guerre civile qui fait rage au Rwanda entre le 7 avril 1994 et le 17 juillet Donc, 3 mois environ, 3 mois qui vont être assez intenses en victimes et puis en...
800 000, je pense, environ.
Oui.
Combien de gens vont, c'est ça, avoir les membres coupés ou des blessures psychologiques?
Oui, c'est ça, des mutilations. Puis effectivement, aussi, les victimes du génocide, on l'a comparé souvent avec la Shoah, dans le sens que ça a instauré pas un processus, mais des gens ont écrit des mémoires, leurs souvenirs de ce génocide-là et tout. Donc, il y a tout cet appareil, ce bagage de mémoire collective-là qui s'est développé au lendemain, dans les années suivantes, la guerre, le génocide rwandais. Donc, c'est ça, il y a tout un débat, en fait, à savoir si c'est un génocide ou non, parce qu'il y a une définition claire de la part de l'ONU, puis là, en tout cas, ça n'a pas les mêmes répercussions si on appelle ça un génocide ou non. Bon, moi, je trouve ça quand même un peu stupide d'essayer de libeller ça de même, là. Je trouve que c'est complètement con, surtout pour les implications, on va le voir dans quelques instants, mais tu sais, ça a des implications graves, cette étiquette-là, fait que je trouve ça cave de s'empêcher d'agir juste parce que c'est pas un génocide, c'est juste une guerre civile. Mais bon, moi, je persiste et je signe en disant que c'est un génocide. Donc, c'est l'attentat du 6 avril qui est souvent qualifié comme l'élément déclencheur du génocide, c'est-à-dire l'assassinat du président rwandais et burundien par un missile lancé sur leur avion alors qu'il atterrissait à Kigali. Donc, ça va être l'amorce, disons, du génocide. Puis dans la nuit, c'est ça, là, il va y avoir d'autres assassinats de gens. Oui, tu veux...
C'est ça. Est-ce que ça a été perpétré directement par les Hutus eux-mêmes? Est-ce qu'on le sait à l'époque? Parce qu'il y avait les militaires, voulaient le pouvoir.
En fait, il n'y a personne qui sait encore qui a tiré le missile sur l'avion. Donc, évidemment, on peut se douter, parce que les deux présidents, en fait, étaient des Hutus. Donc, on peut se douter que c'était des Tutsis, mais on ne peut pas le savoir parce qu'il n'y a personne qui a été reconnu coupable ou rien. Mais pour comprendre l'essence du conflit, il faut surtout comprendre la division entre les Hutus et les Tutsis, justement, qui règnent au Rwanda. Cette division, en fait, c'est 3 groupes qui ont été instaurés par les colonisateurs, évidemment. Le Rwanda était une colonie allemande jusqu'à la Première Guerre mondiale, où là, elle a été vaincue par la Belgique, qui en a pris possession, en fait, le Rwanda est devenu sous la tutelle de la Belgique avec l'accord de la Société des Nations, donc le précurseur de l'ONU. Cette division-là est basée sur le métier, puis ça se trouve aussi partout en Afrique à cause justement de l'héritage colonial. Donc, ça se fait en 3 groupes. Les Tutsis, qui sont les éleveurs, puis surtout riches et des puissants propriétaires. Les Hutus, qui sont des agriculteurs, des paysans. Et les Twa, qui sont en fait des artisans et des ouvriers. Évidemment, la société rwandaise précoloniale, elle repose bien plus sur une division plus grande. Il y avait une 20aine de clans, qu'on dit, mais que ça a été laissé de côté à cause justement de à la fois des Allemands qui ont instauré ça, mais surtout des Belges, en fait, qui vont imposer les Tutsis pour exercer l'autorité sous la tutelle de la Belgique. On va instaurer aussi les papiers officiels en 1931 qui vont indiquer à quel groupe ethnique tu appartiens. Donc là, ça laisse peu de place à interprétation. Puis c'est le père, en fait, c'est la descendance. C'est selon le père que les enfants vont être soit Hutu ou Tutsi. Donc si un père est Hutu et la mère est Tutsi, les enfants vont être Hutu. Évidemment, ça va grandement favoriser les Tutsis, que ce soit pour l'éducation ou pour l'enrichissement général ou évidemment la réputation. Lors du processus d'indépendance du pays, donc à la fin des années 50, il va y avoir un renversement de pouvoir, alors que les colonisateurs, qui vont préférer s'allier à la majorité, donc aux Hutus, vont accentuer la discrimination entre les deux groupes. Puis c'est en 1959 que vont débuter les vraies animosités entre les deux, puisque plusieurs Tutsis vont quitter le pays, mais ils vont vouloir revenir en 1990, ce qui va causer aussi une guerre civile. Donc, à partir de cette indépendance-là, des massacres vont débuter, dont le premier important est en 1963, qui va voir entre 8 000 et 12 000 Tutsis tués. Au Burundi, c'est plutôt l'inverse, parce que la majorité de la population, c'est des Tutsis. Mais eux aussi vont faire des massacres, ils vont massacrer en fait 200 000 Hutus, rien de moins. Puis, on a comparé ça aussi, l'Église catholique et tout a comparé ça au génocide de la Shoah, en fait, à la Shoah, parce que c'était la grosse extermination de masse la plus importante depuis la Deuxième Guerre mondiale. En 1973, il va y avoir un coup d'État de la part de Juvenal Habyarimana, qui va prendre le pouvoir au Rwanda, puis qui va tenter d'apaiser un petit peu le climat. Question de bien paraître auprès des capitales européennes. Évidemment, le passé colonial n'est jamais bien loin. Il va entretenir des liens importants avec la France, ce qui va mener à la formation d'une gendarmerie, entre autres. On la voit aussi dans les films qu'on va vous parler dans quelques instants. Les discriminations vont quand même persister, par contre, mais on va tolérer de plus en plus les Tutsis parce qu'on a besoin d'eux dans l'administration publique, disons, dans l'étatisation grandissante du Rwanda. Beaucoup vont s'entendre pour dire que la rapidité puis la violence du génocide des Tutsis au Rwanda s'explique par un conditionnement discriminatoire dans les décennies précédant le conflit. Évidemment, on l'a vu, il y avait déjà eu des massacres, mais il y avait plusieurs signaux d'alarme là, qui laissaient présager un éventuel massacre. Il y avait également beaucoup de propagande anti-Tutsi à la radio puis à la télévision. Il y a toutefois quand même certains doutes auprès des historiens et des sociologues sur le caractère planifié du génocide. Donc, on s'entend pour dire que c'était prévisible, mais planifié, ça c'est une autre paire de manches. L'un des événements les plus importants, en fait, qui va précéder le génocide, c'est la guerre civile rwandaise de 1990 à 1993. Donc, c'est ça, 4 ans avant le conflit. Dans ce conflit-là, les exilés Tutsis, qui étaient partis lors de l'indépendance, vont tenter de revenir au pays puis de prendre la capitale, Kigali. Ce qu'ils vont pas réussir à faire, en fait. Donc, il va y avoir plusieurs conflits armés et tout entre les deux groupes. Là, je les ai pas notés, malheureusement, mais c'est RFD, je crois. Enfin, peu importe. Mais donc, c'est ça, il va y avoir plusieurs conflits armés. Puis, ça va se régler, je mets ça entre guillemets, en fait, parce que avec les accords d'Arusha, qui vont, puis c'est ça qui dit, ben, sont un cessez-le-feu, et puis c'est ça, arrêtez de vous taper dessus, puis là, ils vont remettre, en fait, les Hutus au pouvoir. Puis l'ONU va déployer des casques bleus pour assurer le respect de l'accord. Les casques bleus avec un certain Roméo Dallaire, qui était à la tête, justement, de ce mouvement-là de pacification de la région. Mais la paix va pas être respectée. Puis c'est là que le génocide va prendre de l'ampleur, disons, ben, que les événements qui vont mener au génocide vont se produire. Il y a toute une chronologie d'événements qu'on n'a pas vraiment le temps de retracer en détail, mais on peut quand même souligner certaines dates et certains faits saillants importants. Évidemment, je l'ai dit, le 6 avril 1994, l'assassinat des deux présidents dans l'avion. Le lendemain, plusieurs autres personnalités, dont la femme du président rwandais, personnalités Hutu, en fait, vont être assassinées, tout comme 10 casques bleus belges. Donc, on s'attaque vraiment à l'ONU d'entrée de jeu. En répression, les Hutus, la même journée, vont dresser des barrières puis des points de contrôle un peu partout. Puis dès qu'ils vont voir sur les papiers que la personne est un Tutsi, ben ils vont tout simplement la tuer. Donc, c'est ça. C'est quand même assez radical. Le lendemain, donc le 8 avril, la France et la Belgique vont évacuer leurs citoyens pendant que les massacres vont continuer aussi. Les casques bleus vont être retirés un peu plus tard, le 14 avril. Donc, une semaine après le conflit, en fait. Puis, le 30 avril, on estime... Donc, le 30 avril, on est 24 jours après le début du conflit. On estime que 200 000 personnes sont déjà mortes. Donc, 3 semaines, c'est ça. Ça fait quand même beaucoup de dommages.
Ben, c'est une boucherie, pour eux.
Ben, c'est ça, vraiment. Là. Puis, et le 31 mai, donc un mois après, on estime qu'on est entre 250 000 et 500 000 personnes. Donc, on constate que la communauté internationale aussi est très lente à réagir parce que, en fait, elle sait pas comment réagir au conflit. On veut pas l'appeler génocide parce que là, si c'est un génocide, les gens peuvent intervenir. L'ONU peut intervenir militairement, mais si c'est pas un génocide, elle a pas le droit militairement d'intervenir. Puis là, c'est ça. Le tout se passe un peu dans la totale indifférence. Donc, c'est ça. La communauté internationale est très lente à réagir. Le 22 juin, là, enfin, il va y avoir du mouvement. L'opération turquoise est lancée par la France. Ça a pour but de créer une zone humanitaire sécuritaire pour les réfugiés. Je crois que c'est au sud du pays, donc près de la frontière avec le Zaïre, je crois. Le Zaïre qui est le Congo, en fait. Donc, c'est pas vraiment un succès parce que même les massacres continuent même au sein de la zone sécuritaire. Donc, évidemment, ça marche pas. Puis, ils étaient pas armés non plus, donc ils pouvaient pas faire grand-chose. Puis, le 4 juillet... Donc là, on est vers la fin du conflit. Le FPR, je l'avais noté, donc dirigé par les Tutsis, ils parviennent à prendre le contrôle de Kigali, puis le contrôle politique, disons, du pays. Puis c'est ce qui signifie à peu près la fin du conflit qui va être officiellement annoncé le 17 juillet. Donc un 3 mois, puis on compte, comme tu l'as dit, 800 000 victimes, que ce soit des Tutsis ou des Hutus modérés. En fait, si t'étais pas un Hutu à fond, ou si t'étais marié avec une Tutsi ou un Tutsi, ben là, on considérait que t'étais pas un vrai Hutu, puis on faisait juste te tuer tant qu'à faire. Donc, puis en plus de ces 800 000 victimes-là, il y a aussi 1 million de Rwandais et Rwandaises qui vont quitter le pays vers d'autres, que ce soit le Congo, que ce soit le Burundi, etc. Évidemment, c'est ça, la situation a été vivement dénoncée par Roméo Dallaire, qui commandait la mission de paix des Nations Unies. Il dénonce le fait que la communauté internationale n'ait pas voulu adapter son mandat pour venir en aide aux victimes militairement, disons. Puis aussi, personne ne voulait qualifier ça de génocide, donc il trouvait ça déplorable. Puis aussi, il déplore le fait qu'Israël continue de vendre des armes au gouvernement Hutu, notamment, mais je crois que les armes se vendaient des deux côtés aussi. Donc, le génocide a eu plusieurs conséquences graves. Dans le camp de militaires, en fait, il va y avoir une épidémie de choléra qui va éclater dans les camps de réfugiés, ce qui va tuer environ 24 000 personnes. Le conflit va aussi se transporter au Zaïre, puis qui va s'inscrire dans la première et la deuxième guerre du Congo. Et puis, ça va causer aussi des relations tendues entre le Rwanda et la France, qui va même mener à une rupture des relations diplomatiques en 2006, mais qui vont être rétablies en 2009. Merci, Sarkozy. Le conflit repose en fait sur le fait que la France ne veut pas reconnaître son implication dans le génocide, ou plutôt son inaction, ce qui a mené à tous ces morts-là. Donc, suivant le génocide, on va instaurer aussi le tribunal pénal international pour le Rwanda pour juger les principaux responsables du génocide. Par contre, on va en emprisonner quelques-uns, mais c'est un peu con parce que le tribunal ne pouvait pas juger des actes qui se sont passés avant l'instauration du tribunal en 2002. Donc, on pouvait à peu près pas emprisonner des gens. Donc, c'était ridicule. En fait, c'est juste pour bien paraître de la part de l'ONU. Mais évidemment, des tribunaux nationaux vont quand même juger des responsables du génocide au sein même du Rwanda, mais pas sur la scène internationale nécessairement. Donc, on va aller en pause, en fait. On va aller écouter Fred Fortin avec Microdose. Puis après ça, on va revenir avec nos deux suggestions de la semaine. Restez des nôtres.
Combien de tonnes sur San Francisco? Combien de hippies sont jetés à l'eau? Combien de bandits se sont échappés? Combien de poubelles sont entassées dans le dépôt? De San Francisco, je connais des adeptes de la microdose, ce sont des geeks, des intellos. Ils ne mangent que vegan, intégral, bio et les vapeurs fermentent dans leur cerveau. Je visiterai le labo qui fabrique et enchante tous les narcos. De San Francisco,
donc bon, du Fred Fortin.
On se tanne jamais. Hein? C'est pas comme la hume de neige. Bon, voilà. On n'est pas à Québec ici.
On est de retour. Donc, le film international qu'on vous suggère cette semaine, c'est nul autre que Hôtel Rwanda. Hôtel Rwanda, c'est un film de 2004 réalisé par Terry George et qui met en vedette Don Cheadle, Nick Nolte, Sophie Okonedo, Joaquin Phoenix et
pour deux scènes, Jean Reno,
oui,
exactement.
Jean Reno, effectivement, le lien colonial. Donc, c'est un film biographique sur Paul Rusesabagina.
Oui, tu l'as bien prononcé.
Ah, ben presque. Le gérant de l'hôtel Les Mille Collines à Kigali, qui abritait en fait 1268 Tutsis et Hutus modérés durant le génocide. Donc, Paul lui-même est un Hutu, mais sa femme est une Tutsi. Évidemment, il est un peu menacé par le génocide. Il tente d'acheter la paix autant qu'il peut en donnant des pots de vin aux militaires, donc de l'alcool, de l'argent, donc à peu près tout ce qu'ils veulent. Et puis, aux militaires qui veulent s'attaquer aux résidents de l'hôtel. Il tente évidemment de protéger sa famille et c'est ça, à peu près, ceux qui sont menacés par le génocide. Une espèce de récit à la liste de Schindler,
ben,
effectivement.
Pas mal.
Il y a beaucoup de comparatifs à faire, ouais. Là. Ben, vas-y, je voulais t'entendre là-dessus.
Ben, t'auras pas mon vote. Non, mais sincèrement, j'ai vraiment trouvé des comparaisons intéressantes entre les deux parce que, ben, non seulement, tu sais, c'est des drames humains, c'est des génocides, point, là, qui se sont passés.
Ouais.
Puis vraiment, dans la difficulté, peu importe les personnes étaient de quelle origine, Rusesabagina va le faire. Ben, en fait, c'est Don Cheadle qui le fait dans le film, mais dans la vraie histoire, le gérant de l'hôtel l'a fait. Il a fait, non, moi, c'est des humains que je sauve. Je me mets pas à dire, lui, il vient de là, il vient de là. Même chose avec Oscar Schindler, dans la liste de Schindler. Je vais sauver les gens avec mon lieu de travail, tu sais, dans la liste de Schindler, c'est l'usine, alors que dans Hôtel Rwanda, ben, c'est l'hôtel des Mille Collines, donc qui est comme, ben, non, je vais trouver un subterfuge, tu sais, là, ils leur trouvent des cartes d'identité, ben, pas des cartes d'identité, mais des billes, là, des factures d'hôtel, comme, ben, ça a été des vrais clients, fait que je vais pouvoir le prouver comme ça.
Ouais.
Alors que, tu sais, dans la liste de Schindler, bon, ben, Oscar Schindler emploie littéralement les Juifs qui visent à être déportés, ben, lui, il va leur sauver la vie, donc, à ce niveau-là, il y a beaucoup de comparaisons.
Oui, il y a beaucoup de comparaisons
faciles à faire, mais également, c'est des drames humains. Donc, c'est vraiment une personne qui est déchirée puis qui veut vraiment aider les gens et au péril de sa vie, là, parce qu'il aurait pu mourir facilement.
Oui, parce que c'était pas un vrai. Ben, c'était un Hutu, là, évidemment, donc il était un peu protégé, mais c'est les Hutus modérés aussi se faisaient tuer. Donc, clairement, avec une femme Tutsi, il était pas legit, mettons, là. Il était quand même menacé. Mais par contre, oui, il fait pas autant l'unanimité qu'Oscar Schindler, en fait, parce que le film a eu sa part de controverses, en fait, plusieurs controverses. Donc, le président de l'Association des survivants du génocide mentionne que l'héroïsme du personnage est un peu mensonger et que ça lui a... En tout cas, on l'accuse, en fait, de s'être enrichi de cette situation-là. Paul aussi, Rusesabagina, s'est également prononcé contre le président Tutsi en 2005 aussi, donc, ce qui n'aide pas nécessairement sa cause. Puis... Outre le fait, disons...
Il a été vivre en Belgique, là, tu sais.
Ouais,
ça
aussi,
a pas aidé,
c'est
là.
Ça, quand il était plus jeune et tout. Mais outre ça, en fait, il y a plusieurs erreurs factuelles puis de dates qui parsèment l'histoire, ce qui vient un peu... discréditer le film, là. Je peux pas dire en totalité, mais bon, il y a plusieurs oublis, dont le coup d'État du président rwandais en 1973 et le soutien militaire français lors de la guerre civile.
Ça aurait dû être mentionné, parce que justement, quand Jean Reno... tu sais, il y a une conversation entre Rusesabagina et Jean Reno au téléphone, parce que Jean Reno représente le directeur de Sabena, là, les hôtels internationaux. Puis justement, avec un ou deux coups de téléphone, il va faire débloquer de l'aide. Mais ça n'a pas marché comme ça, là. C'est pas comme ça que c'est arrivé pantoute au Rwanda, là.
Absolument pas. Puis c'est ça, c'est comme un peu supposé, en fait, que les Français ont contribué à la guerre civile qu'il y a eu avant le génocide. Mais c'est ça, c'est laissé à très forte interprétation. Puis quelqu'un qui connaît pas tant le contexte, ben, il le catchera jamais. La carte d'identité ethnique, donc avec le passeport Hutu ou Tutsi, a été instaurée en 1931 et non en 1926, comme mentionné dans le film. Donc, il y a une autre petite erreur de date. Puis, il y a beaucoup d'erreurs de date. En fait, l'opération turquoise, donc l'opération française pour les camps de réfugiés, commence le 22 juin et non pas le 22 mai, comme c'est dit dans le film. Ça, c'est En tout cas, tu sais, je trouve ça con qu'on soit trompé, tu sais, de si peu.
Mais non, mais tant qu'il en a parlé, mais donc la vraie date.
C'est ben, ça. C'est ça. C'est, je comprends pas, tu sais, c'est juste des erreurs factuelles comme ça. Puis, outre ça, on regrette aussi que le film ait été tourné entièrement en Afrique du Sud et non pas au Rwanda. Donc, évidemment, bon, c'est sûr que c'était c'est un film, une coproduction, je crois, entre le Royaume-Uni puis les États-Unis, probablement. Donc, évidemment, c'était une ancienne colonie, disons, l'Afrique du Sud. C'était peut-être plus facile aussi d'aller tourner là-bas au début des années 2000. Enfin, il y a plusieurs facteurs, mais je trouve ça un peu stupide qu'on n'ait pas... qu'on soit pas allé tourner là-bas. Néanmoins, le film a été nominé à 3 Oscars, dont celui du meilleur acteur, de la meilleure actrice de soutien et du meilleur scénario. Puis il a également remporté le prix du public à Toronto. Donc habituellement, c'est quand même un gage de succès.
Il a été nominé, c'est ça, mais il a pas gagné d'Oscar.
Non, il a pas gagné. Personnellement, les erreurs de date, ils me chicotent un peu. Là, pour vrai, je comprends
pourquoi?
Pas pourquoi.
Ah oui, parce qu'on est historien, c'est
ouais,
vrai.
C'est ça. Ben, il y a ça aussi, mais je veux dire, tu fais ta recherche un petit peu. Mais
c'est surtout... Pour 5 ans, tu sais, ça veut dire qu'il savait, mais il a pas voulu la mettre parce que tu sais, il était proche. Et come on, fais-le comme faut. Fais-le comme faut, fais-le
soit
pas.
Soit ça, ou soit le mois qui est pas le bon. Ben enfin, oui. Mais tu sais, par contre, je m'en fous un peu qu'il ait omis le coup d'État ou la participation française parce que, tu sais, au final, c'est pas tant. Ça aurait été lourd de faire un film sur le génocide, tout simplement. Fait que de le ramener à un personnage auquel on peut s'identifier, moi, je trouve que c'est une bonne décision. Don Cheadle est évidemment excellent. Nick Nolte aussi, qui joue... il joue pas Roméo Dallaire, là. Il joue quelqu'un qui est pas mal lui, mais en tout cas, c'est casté comme Colonel Olivier.
Ouais, c'est ça, Oliver, mais ouais. C'est Roméo Dallaire. C'était lui le chef des opérations de l'ONU.
Exactement. Puis il ressemble aussi. Je veux dire, mettez-y le vrai nom. Ils ont pas eu les droits.
Ben, c'est ça. Parce qu'ils l'ont pas demandé, parce que c'est ça, fait que je me dis que la construction, tu sais, du film autour du récit, ouais, en fait.
Ce qui entoure le film, la production et tout, n'est pas top, là, mais au final, le récit reste quand même assez intéressant, non, pareil.
Les images, pour vrai, tu sais, parlent d'elles-mêmes. On en parlera tantôt avec le prochain film, là, suggéré, mais quand même, non, c'était beau. C'était un beau film.
Il y avait quelques images marquantes, là, où on dit à Paul, tiens, tire sur ta famille, si t'es pas capable de payer leur... un truc, ou sinon quand ils se promènent dans la brume, puis là, ils font comme, voyons, ils tombent des nids de poules cette route-là, puis finalement, c'est plein de cadavres qui roulent par-dessus. Donc, il y a quelques scènes marquantes, mais au final, le récit, on dirait qu'il manque un peu de tension, on pourrait dire. Puis c'est Jade, ma blonde, évidemment, qui a soulevé ce point-là, mais c'est ça qui fait, tu sais, il manque un peu cet élément de tension-là qui fait la force des Capitaine Phillips, par exemple, ou de la liste de Schindler, même. Il y a plusieurs moments de tension où, avec
Ralph Fiennes, quand il tire sur les Juifs. Là,
donc, il manquait un petit peu cet élément-là, mais par contre, je trouve que c'est une très belle... c'est un très bon récit tout de même. C'est assez... Je peux plus dire fidèle, mais je peux dire que l'ambiance est quand même bien recréée en général.
C'est ça, c'est un bon film sur une tristesse humaine. Là,
ouais,
humain.
C'est ça. Le fait de... Tu sais, on peut déplorer le fait que c'est pas le film parfait, mais d'en parler comme ça, de faire un film américain, bon, il est semi-américain, mais de faire un film grand public comme ça sur un sujet assez dur qui a été très peu médiatisé à l'époque, surtout par les Américains qui revenaient d'une semi-défaite là, au Somalie. D'ailleurs, les deux films qu'on va vous parler en font référence de cette défaite, ouais. La défaite en tout cas. Échec et militaire américain.
En fait, on pourrait en parler plus longuement, mais les Américains n'ont pas été souvent glorieux dans leur conquête militaire, ouais. Là, en fait.
Depuis la guerre de...
c'est ça. En Europe, ils sont arrivés pas mal à la fin des deux guerres, puis ils ont pris tout le crédit, mais...
Non, c'est ça.
Mais c'est ça.
Mais quand même, je trouve qu'il vaut l'écoute. Moi, je l'avais vu au secondaire, mais on l'a réécouté pour le bien de la cause, puis c'était très bien. Bon, Joaquin Phoenix est beaucoup trop absent là, pour la qualité de son acte.
C'est pas juste ça. Tu fais des recherches, peu importe sur Google, n'importe quoi, il est trop crédité dans le film, alors qu'il est... Il y a quatre répliques, là. C'est ridicule.
Ça. Mais c'est un très bon film qu'on vous suggère, bien évidemment. Donc, au retour de la pause, on va vous parler justement d'un autre film, du film québécois. Mais avant ça, on va aller écouter un peu de musique rwandaise, tant qu'à faire, hein, tant qu'à parler du Rwanda. Donc, on va aller écouter Urugendo de Mighty Popo. Donc, vous écoutez Ciné Histoire sur les ondes de CFAK 88.3 FM. Excellente chanson. On rappelle encore une fois que la programmation musicale nous est préparée par Ghislain Laurendeau à chaque semaine. Un jour, il va pouvoir se libérer pour venir à notre émission.
Ben, il nous a dit aujourd'hui qu'il neigeait, fait qu'il pouvait pas. Là,
ah, bon, hein, c'est dommage. Yannick, évidemment, qui dit Rwanda, évidemment, c'est la francophonie. Il y a eu des films québécois, en fait. Il y en a même eu deux,
oui.
Mais on n'en a choisi qu'un seul aujourd'hui. Donc, je t'écoute.
Ben oui, donc, en fait, en 2006, oui, sortait 2006. En fait, le film de Robert Favreau, donc, un dimanche à Kigali, qui est en fait inspiré, ben, je dirais pas largement, là, ni librement, je vais dire totalement, plutôt,
ouais, ouais,
sur le livre de Gilles Courtemanche, Un dimanche à la piscine de Kigali. Donc, juste pour raconter un peu l'histoire, en fait, c'est que Gilles Courtemanche, qui était journaliste et écrivain, avait été littéralement plongé au cœur du conflit à l'époque, parce que lui, pendant qu'il était au Rwanda, ça s'est déclaré, donc, le conflit. Et donc, il raconte ça dans son livre, puis il est exactement à l'hôtel des Mille Collines, tiens donc,
ouais, ouais,
où justement, l'histoire d'Hôtel Rwanda.
Je regardais sur Google Maps, c'est quand même assez central sur la ville. Évidemment, c'est un coin avec beaucoup d'hôtels et tout, donc ça devait être un lieu. Ben, à l'époque, il ne devait pas avoir une tonne d'hôtels non plus. Donc, on allait un peu comme dans Club Med, je ne sais pas trop quoi, les hôtels un peu plus.
C'est toujours mieux qu'un Econo Lodge. Hein. On avait tout ça à Buffalo dans le temps.
Ah, ben, pas juste à Buffalo,
mais quand même.
Le Red Roof à New York.
Ouais, cas, Red Roof. Mais ouais, tout ça pour dire que c'est un excellent film pour vrai.
Ouais.
Robert Favreau avait fait des films avant un petit peu, là, mais plus des courts-métrages. Là, mais franchement, j'aurais été curieux de voir d'autres productions, d'autres réalisations de l'homme.
Ouais, parce que c'est ça, c'est son dernier film. En fait, ouais, il est encore vivant. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il fait.
Il a 71 ans, c'est ça. Ouais. Mais vraiment un bon film. Donc, c'est Luc Picard qui joue donc le journaliste qui est un peu teinté. On pourrait penser que c'est Gilles Courtemanche lui-même. Là,
ouais, ouais.
Parce que c'est vraiment inspiré de sa vie. Donc, qui se rend donc Ben, en fait, il est journaliste. Il couvre, même pas le conflit au départ. Il est là pour tourner un documentaire sur le sida, au Rwanda. Puis dans le fait, il trouve des liens avec l'Église. Donc, il y a des églises qui aident les gens atteints du sida. On voit Vincent Bilodeau dans le film. Ben, avant qu'il meure. Ouais. Vincent Bilodeau qui est un prêtre, donc il s'occupe des sidéens. Parce que le Rwanda, comme beaucoup de pays d'Afrique, ne reconnaissaient même pas le sida à l'époque. Puis c'était même pas une problématique, alors que des fois 10 à 15 à 20 d'une population est infectée. C'est immense.
Ouais. On voit aussi Céline Bonnier qui joue une infirmière.
Ouais, un médecin infirmier. Là, ouais. Une infirmière. Donc le film part vraiment avec cette thématique-là, mais c'est vraiment. Alors que l'amour du personnage de Luc Picard pour la serveuse de l'hôtel, Gentille, qui s'appelle, qui joue par Fatou Ndiaye, que là, vraiment, Luc Picard, un clash dans la tête, là, je voulais dire que une prise de conscience qui est comme, hey, ça va brasser ici, puis ça va pas bien.
Puis
on le voit même avec un personnage au début qui meurt du sida, là, le DJ Rock qui s'appelle, il dit littéralement, occupez-vous pas du sida présentement, ce qui urge le plus ici, c'est ce qui s'en vient entre les Hutus et les Tutsis. Donc vraiment, c'est un beau film, encore une fois, parce que premièrement, il a été nominé aux Oscars pour le meilleur décor, mais il n'y a pas...
Aux Oscars?
Non. Mais il a remporté un prix génie.
Peut-être au génie.
Il a remporté des génies, mais il faudrait revérifier, là. Parce que
aux Oscars, c'est très rare. C'est un film international, là, c'est
très rare. Je m'aborde. Mais bref, c'est un film donc où à certains moments, on rappelle des moments tourner caméra épaule pour montrer qu'on est vraiment dans la tête de Luc Picard, dans sa visée documentariste. Beau film, petit commentaire, on a vraiment plugué beaucoup. Je le disais à la blague tantôt, l'union des artistes pour les comédiens noirs, là, mais c'est qu'en fait, sont toutes là, quasiment. Luc Merville, Fayol Jean qui joue le médecin dans Kilomètre Heure, Maca Koto, en tout cas, il y en a beaucoup. Donc, je sais pas, je me dis, c'est correct, si on n'a pas engagé des acteurs de l'endroit. Il y en a quelques-uns, mais tu sais, pour les rôles bien campés, c'est sûr, on a pris des acteurs du Québec, c'est bien correct, là. Je suis pas en train de faire un reproche à Robert Favreau. Est-ce que c'est tant différent qu'Hôtel Rwanda? Ben oui, parce que c'est peut-être pas la même.
On retrouve plusieurs thématiques qui sont quand même similaires, mais c'est surtout ça. C'est surtout une histoire d'amour plus qu'autre chose.
Exactement.
C'est aussi construit un peu avec des retours dans le temps. Donc, en fait, c'est que le personnage de Luc Picard, il va quitter durant le début du conflit, à peu près, il va quitter vers une zone...
À la frontière, c'est ça.
Puis il va rester jusqu'à la fin, en fait, du génocide. Puis là, ça va être un peu sa quête d'essayer de retrouver Gentil, qui, elle, est restée au Rwanda. Puis là, avec c'est coupé de flashbacks et tout sur leur relation, comment ça s'est développé, comment s'est passé son... Il y a même une rencontre avec Roméo Dallaire aussi, là, ce qui était joué par qui, donc?
Guy Tauvette.
Guy Tauvette, c'est ça. J'ai checké vite les génies, donc les Oscars, disons, canadiens. Ça avait gagné meilleur scénario, ce que je trouve très bon. Parce que, pour vrai, c'était un film très touchant, c'était très... Ben, Luc Picard est excellent, encore une fois.
Luc Picard, c'est un excellent acteur, c'est ça, même réalisateur.
Tout le film, tout ce qui l'entoure était très bien réalisé et tout. Il était nominé meilleur film, meilleur costume, meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleure actrice.
Ça se peut-tu de Joran?
Non.
Il avait juste été nominé, c'est
non, ça? Non, ben c'est comme meilleur son. Ouais. Fait que je pense pas que ça rentre dans
mais
la musique.
Tu parlais de Luc Picard. Moi, ce que j'ai vraiment aimé du film, c'est... la remise en question de l'homme blanc en Afrique, parce que tu sais, il y a beaucoup de liens à faire entre les deux films qu'on vous suggère, donc entre le colonialisme et les natifs ou les gens qui sont de l'endroit, puis que finalement est-ce qu'ils vont devenir pendant le conflit collaborateurs ou est-ce qu'ils vont devenir des victimes ou choisis ton camp finalement.
Non,
mais Luc Picard, tu sais, vraiment il est tourmenté par le fait que est-ce que Gentil s'intéresse à moi juste pour avoir son passeport, puis en même temps Gentil lui retourne l'appareil en disant oh mais toi tu viens juste ici pour l'exotisme finalement parce que je suis une belle jeune femme noire, tu sais.
Ouais.
Mais en même temps non, c'est l'amour vraiment qui prend les deux.
Non, c'est ça. Puis c'était très touchant, très bien réalisé, puis j'ai l'impression que Luc Picard jouait un peu le personnage de Joaquin Phoenix dans Hôtel Rwanda.
C'est ce que j'ai pensé, puis en fait il est plus développé évidemment, l'histoire est focalisée sur lui, mais vraiment, ben, c'est une critique peut-être qu'on aurait pu formuler à Terry George. Mais Joaquin Phoenix est inutile dans le film.
Non, c'est ça.
Dans l'autre film.
Mais on a l'impression de suivre son personnage dans ça aussi. Puis sinon, il y a un deuxième film québécois qu'on n'a pas vu. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu, là, mais J'ai serré la main du diable.
À quel point c'est québécois? Parce que c'est Michael Donovan qui l'avait produit ou réalisé.
Mais je vais aller voir vite, mais c'est Roy Dupuis qui jouait Roméo Dallaire. Là,
ben là tu es en train de voler mes questions quiz qui s'en vient, mon petit tabarouette.
Vas-y fort. On vous conseille, évidemment, J'ai serré la main du... Un dimanche à Kigali, qui est disponible sur YouTube, en très bonne qualité aussi.
Je me demande à quelques égards si ça n'a pas été censuré, parce que... Ou coupé, parce qu'il y a des bouts qui manquent, parce que c'est fait par un organisme chrétien.
Et là, tu sais, il y a des petites coupes de son aussi, là, mais bon, je pense que c'est juste question de, je sais pas, t'as pas le droit de mettre un film sur YouTube.
Vu quand Luc Picard va s'aliter avec Gentil, c'est coupé. Je sais pas si on fait pour vrai, mais
on verra.
Mais franchement, très bon film, puis je l'avais jamais vu. C'est la première fois que je le voyais.
Ah ouais?
Et j'ai été très touché, et je vous le recommande. Pour vrai, vous serez pas déçu. Et vous en apprendrez beaucoup sur l'histoire du Rwanda, parce que les deux films, Hôtel Rwanda, tu l'as dit, c'est quelques faits historiques, en fait, sont manqués, là. Faits factuels, mais Dimanche à Kigali est quand même assez plus véridique, je dirais, sur les vrais événements. Là.
Non, c'est
même si c'est monté en flashback souvent. Là.
Ouais. Puis je viens de checker, je sais rien à du diable, effectivement, c'est Roger Spottiswoode, mais c'est un film canadien, en fait, mais j'ai aucune idée c'est qui ce gars-là.
Il se fait des bons films canadiens une fois de temps en temps, quand c'est pas des films québécois. Hein?
Ben, c'est ça,
La Mouche de David Cronenberg.
Ouais, c'est ça. Le quiz, tu nous as préparé un petit quiz, apparemment. Là.
Ben là, tu me remets en question,
Si j'ai spoilé quelque chose, dis pas la question, c'est tout.
Non, c'est pas grave, j'irai de...
Anxieux.
J'ai au moins deux, trois questions. Donc, quel chanteur québécois est né au Rwanda? Le sais-tu, Alexandre? Quand même un chanteur très connu. Je dirais que ses meilleures heures...
Corneille?
Oui, Corneille. Corneille, donc, qui avait été réfugié en Allemagne, en fait, au départ, et qui est venu s'établir au Québec par la suite. Donc, lui, il avait perdu sa famille au Rwanda, malheureusement.
Désolé pour le petit bug de son. Donc, Corneille, effectivement. Il n'était pas à la disque, en plus, cette année. Je l'ai pas vu. Bon, peut-être pas.
On y souhaite.
Ben bon.
Deuxième question, en fait, c'est même cette année-là, je crois, c'est en 94, année du conflit. Donc, un chanteur, en fait, je te demande la chanson au chanteur, là, a fait une chanson assez collée sur les actualités Rwanda. C'est un chanteur sénégalais.
Et Seigneur. T'as-tu un choix de réponse qui venait avec ça ou non? Pas partout. Attends, chanteur sénégalais. J'en ai aucune idée.
Ben attends, mettons, je te laisse 10 secondes.
Ah, ben là, si tu me laisses 10 secondes, je vais aller checker sur Google. Hein. Non, je sais pas pour vrai. Shoot!
Ben c'est la chanson 7 Seconds de Youssou N'Dour.
Connais le nom, mais jamais j'aurais été capable
c'est
de...
Ça, mais
un griot.
C'est un griot à la base, aujourd'hui, il fait plus d'études dans des discothèques, mais je dirais pas que c'est un one-hit wonder, parce que je connais pas le reste de ces chansons, mais effectivement...
Peut-être pour nous, mais je pense que pour les Sénégalais, c'est pas un one-hit wonder, nécessairement.
C'est ça. Donc, c'est ça, j'irai de ma troisième question sur ce quiz totalement improvisé aujourd'hui. Oui. Donc, on parle des films au Rwanda qui touchent le génocide. Est-ce que tu aurais vu par hasard le film Shooting Dogs?
Pas en tout.
Ok, parce
ça
que c'est
bien.
Parce que c'est un film donc qui est basé aussi sur les événements. Puis j'avais une question sur qui jouait dedans là, mais peut-être tu l'as pas vu.
Shooting Dogs.
C'est ça.
C'est un film américain.
C'est un film britanno-américain. Là.
Mais, aucune idée.
C'est ça. J'avais une question sur John Hurt.
John Hurt,
je voulais dire quel acteur est mort en 2017 puis je jouais dedans, mais c'est John Hurt.
Ça peut-être je l'aurais eu.
L'effet surprise est raté, c'est ça.
Prochaine tempête de neige, prépare mieux ton quiz.
Ça
va me prendre un choix de réponse. Je suis trop noob.
Je te ferai des choix de réponse.
Je suis trop noob.
Aujourd'hui, je pensais que tu me clencherais, mais écoute.
J'ai pas fait mes devoirs. J'ai pas fait mes devoirs.
Alexandre, je sais pas si on a le temps. Au prochaine émission, on parle de quoi, là?
On aurait pu le faire après les pauses publicitaires.
on va le faire
tout de suite, le temps qu'à faire. La semaine prochaine, on a deux invités, en fait. On va parler du cinéma d'animation. Et puis, on va recevoir Frédéric Gosselin et Joshua Vachon, qui sont tous les deux des étudiants comme nous en histoire à la maîtrise. Eux, ils adorent, en fait, le cinéma du studio Ghibli. Donc, le cinéma d'animation japonais. Donc, ils en connaissent probablement plus que nous. Moi, j'en ai vu un du studio, mais bon, il va peut-être falloir que j'en écoute un ou deux d'ici la prochaine émission. Donc, c'est ça, ils vont nous parler un peu du studio, puis ils vont nous parler de leur film favori du studio Ghibli.
Écoute, moi, tu me parles de film d'animation, puis je pense juste à L'homme qui plantait des arbres de Frédéric Bax, c'est ça?
Ouais, c'est de l'animation. Ouais, mais je nous ai trouvé quelque chose de québécois qui sera pas la guerre des tucs ou la guerre des tucs 2.
Je suis content, mais... j'en apprendrai plus la semaine prochaine.
Ben, exactement. Donc, merci d'avoir été des nôtres encore une fois. Là, c'est ça, on va mettre tes pneus d'hiver, là, parce que faut que tu puisses sortir de chez vous. Là, oui. La 24 passe pas souvent dans ton coin. Merci d'avoir été des nôtres. Donc, on va partir avec les pauses publicitaires, puis après ça, on va écouter Tari Inda de Cécile Caillé-Rébois, donc une autre artiste c'est rwandaise. Donc merci d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine. Ainda mama, 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 ainda mama
Pour tout voir, consulte le CFAQ.ca. CFAQ 88.3, l'essence de la radio.